VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Bamako, 19h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. En Mauritanie, la Cour suprême a décidé que Cheikh Ould Mohamed Ould Nketir, condamné à la peine capitale, sera rejugé par une nouvelle cour d'appel différente de celle qu'il a déjà condamnée à mort. La date du nouveau procès n'a pas été précisée. Des milliers de Mauritaniens ont manifesté à Nouakchott pour réclamer l'exécution du prévenu, reconnu coupable pour apostasie après un blog jugé insultant pour l'islam. Les explications de Maître Brahim Ould Debeti, avocat à Nouakchott, au micro d'Idriss Fall.
La Cour suprême a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Nouadhibou et a renvoyé le dossier devant une autre Cour d'appel autrement composée. Ça signifie que l'affaire va être réjugée par la Cour d'appel de Nouadhibou autrement composée, au motif que la Cour suprême a considéré qu'il y a eu des entorses à la bonne application de la loi.
Maître Brahim Ould Debeti, avocat à Nouakchott. En Côte d'Ivoire, le procès de 10 personnes, dont 8 militants ivoiriens accusés d'enlèvement et d'assassinat de 4 hommes en 2011, à peine ouvert ce mardi à Abidjan, a été reporté au 21 février. Les détails avec Tatiana Mosso.
Le juge Mourlaï Sisseko a évoqué des difficultés sérieuses et l'absence de 5 accusés sur 10. Le procès avait débuté avec plus de 3 heures de retard au palais de justice de Yopougon, un quartier d'Abidjan. Le directeur de l'hôtel Novotel d'Abidjan, Stéphane Franz Diripel, Yves Lamblin, directeur général de Sifka, plus grand groupe agro-industriel ivoirien, son assistant béninois Raoul Adeossi et le malaisien Chelian Pandian, directeur général d'une filiale de Sifka, avaient été enlevés par un commando militaire le 4 avril 2011 pendant les combats d'Abidjan. Ils avaient été torturés et tués selon le nouveau gouvernement. Selon l'acte d'accusation, 5 des 10 accusés, dont le général Bruno Dogbeblé, qui commandait la garde républicaine, sont poursuivis pour séquestration et assassinat, les autres pour enlèvement et ou disparition de cadavres. Un enquêteur indépendant a dit à l'AFP sous couvert d'anonymat que les 4 hommes ont été victimes d'un enchaînement malheureux de circonstances. Leur mort n'aurait pas été préméditée. Dogbeblé aurait été dépassé par les événements et sous la pression des patriotes alors que la bataille pour le pouvoir tournait en faveur du camp Ouattara.
RCA, le Conseil de sécurité de l'ONU a prorogé jusqu'au 31 janvier 2018 l'embargo sur les armes visant la Centrafrique. Une décision prise le 28 janvier alors que le pays espérait la levée de cette sanction. Comment cette décision a-t-elle été accueillie en RCA? La réponse avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Cette nouvelle inattendue a créé des frustrations dans tout le pays. Les Centrafricains qui espéraient voir la levée de cet embargo ont été surpris d'apprendre sa prolongation. À Bangui, l'homme de la rue n'est pas resté indifférent.
C'est une chose inacceptable. On ne peut pas être dépendant de cet pays. Nous devons avoir l'initiative d'être autonome. Des reports.
Je crois que c'est pas normal, puisque c'est pas pour la première fois.
Si maintenant on va de report en report, quand est-ce que RCA aura sa souveraineté en matière de sécurité?
Nous sommes très conscients que c'est nous-mêmes qui dépendons de notre sécurité et nous voulions ce que les forces armées centrafricaines assurent la sécurité des Centrafricains.
La Ligue centrafricaine des droits de l'homme dit ne pas être surprise de cette décision. Pour elle, il ne s'agit pas d'un embargo, mais plutôt d'une punition du peuple centrafricain. L'ancien ministre de la Défense, Joseph Bindoumi, est son président.
Moi, je vous dis, en tant que défenseur des droits de l'homme, que le maintien ou la prolongation de l'embargo ne devrait pas se calculer en termes de formation des militaires. Ou pas, ça devrait se calculer en termes de nombre de personnes qui vont encore mourir. Nous sommes membres des Nations Unies. Nous ne devons pas être là en train d'être punis. L'embargo, aujourd'hui, n'est pas considéré comme une sanction des Nations Unies, mais comme une punition du peuple centrafricain.
À l'Assemblée nationale, les députés ont à plusieurs reprises interpellé les nouvelles autorités sur les démarches menées en faveur de la levée de cette sanction. Jean Bosco Namtoa, député de Bouka 1, se dit déçu.
Moi, je suis totalement déçu parce que un État sans son armée n'est pas un État. Dans nos provinces, il y a l'insécurité qui règne. La population souffre. Alors, cette population a besoin de son armée. Mais dire qu'on a prolongé la levée d'embargo, vraiment, je suis totalement déçu de la la situation.
De son côté, le gouvernement se veut optimiste. Le ministre de la Défense, Joseph Yakété, indique que malgré cette prolongation, il existe des alternatives pour réarmer les forces de défense et de sécurité centrafricaines.
Je crois que c'est un coup dur pour notre pays. En même temps, c'est prévisible parce que l'expérience nous montre que partout là où il y a eu l'embargo sur l'importation des armes, l'embargo ne s'est jamais levé d'un seul coup. Ça a été de façon progressive. Je me satisfais aussi d'un aspect, c'est qu'aujourd'hui, si nous répondons à un certain nombre de critères définis par le comité des sanctions, nous avons la possibilité de nous procurer donc l'armement qu'il faut pour équiper nos soldats qui ont fini leur formation.
En 2014, le Conseil de sécurité de l'ONU a imposé un embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine alors que le pays était en proie à des violences intercommunautaires. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Fin du 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a assisté en personne ce mardi à la cérémonie de clôture du sommet au lendemain de la réintégration du royaume chérifien au sein du bloc continental après 33 ans d'absence. Comment Rabat va-t-il gérer sa cohabitation au sein de l'organisation panafricaine avec le front Polisario qui revendique le Sahara occidental occupé par les Marocains? La réponse d'Ibrahima Khan, spécialiste de l'Union africaine, qui estime que le Maroc n'aurait jamais dû partir de l'organisation panafricaine.
Le Maroc a quitté l'OUA d'alors pour des raisons liées à la reconnaissance de la RASD. Aujourd'hui, c'est le Maroc qui reconnaît, ne serait-ce que tacitement, la République arabe sahraoui démocratique par la ratification de l'acte constitutif de l'Union africaine. Le Maroc accepte la République sahraoui est un État africain, est un État indépendant, est un État souverain et que cette souveraineté, cette indépendance doit être respectée par le Maroc. C'est ça le paradoxe de ce retour du Maroc parce que finalement, à y regarder de plus près, il y a eu 30 années de perdu pour absolument rien puisque ce qu'il a refusé il y a 30 ans, c'est ce qu'il accepte aujourd'hui, même dans des conditions plus ou moins difficiles, parce que l'occupation maintenant d'une partie du Sahara occidental qui constitue le territoire de la République arabe sahraoui devient quelque chose d'illégal dans le cadre juridique africain. Et c'est ça qui est un paradoxe pour le Maroc.
Ibrahima Khan à Dakar. Crise migratoire, la Tunisie a mis en échec 113 tentatives d'immigration clandestine en 2016. La plupart de ces migrants ont transité par la Libye voisine. Azouma Compaoré.
Lofti Brahim, chef de la garde nationale, a dit devant le Parlement tunisien que l'an dernier, il y a eu 113 tentatives d'immigration clandestine et 1105 personnes ont été arrêtées. Il n'a pas donné de détails sur le sort des migrants interpellés, mais ils sont le plus souvent expulsés. Selon l'ONU, plus de 5000 personnes ont trouvé la mort l'an dernier en tentant de traverser la Méditerranée pour gagner l'Europe à partir de la Libye, où des réseaux de passeurs profitent du chaos politique et sécuritaire. Hier, lundi, les gardes-côtes libyens ont intercepté quelques 700 migrants qui tentaient cette traversée périlleuse. En moins d'un mois, l'Italie a vu débarquer sur ses côtes méridionales plus de 4000 migrants, pour la plupart originaires d'Afrique subsaharienne.
Coupe d'Afrique des Nations de football au Gabon, la première demi-finale opposera demain à Libreville les étalons du Burkina Faso à l'Égypte. La deuxième demi-finale se jouera jeudi entre le Cameroun et le Ghana, nous dit Jules Valentin Ngoué.
Le ciel s'éclaircit progressivement dans cette CAN gabonaise 2017 qui a finalement dévoilé son carré d'as avec une représentation équilibrée comme l'a été tout le tournoi. L'Afrique du Nord a un représentant sur 4, l'Afrique centrale 1 sur 3 et l'Afrique de l'Ouest avec ses 2 représentants sur 7 au départ voit sa suprématie de ces dernières années proportionnellement atténuée. Les affiches ultimes, avec un Burkina Faso-Égypte à Libreville et un Cameroun-Ghana à Franceville, dévoilent en fait la suprématie des groupes A et D, là où les supposés poules de la mort ont accouché d'une souris. Le suspense qui a accompagné la compétition reste présent à la veille des oppositions peu attendues des demi-finales. Tout le monde avait oublié que le Burkina Faso, finaliste brillant de l'édition 2013, n'était pas là par hasard, puisqu'il reconduit intégralement un groupe arrivé à maturité, ce qui lui donne paradoxalement un statut de favori face à une formation égyptienne solide comme à l'accoutumée, mais quand même en cours de reconstruction. Le Cameroun-Ghana de Franceville voit aussi les Black Stars, vice-champions d'Afrique en 2015, revenir avec le même effectif revanchard pour un succès qui leur avait échappé par malchance à la dernière édition. Mais ils doivent se souvenir que le Cameroun qu'ils ont peu affronté est tout de même la seule équipe qu'ils n'ont jamais battue à la CAN, concédant même une défaite pour un nul.